إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième assise de cette nouvelle série de cours intitulée « Les provisions utiles à l'adorateur ». Nous avons vu dans le cours d'hier l'importance pour nous de purifier nos cœurs et de les préserver de toutes choses qui pourraient les corrompre. Et nous allons voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, la provision la plus importante de l'adorateur et la chose la plus importante par laquelle il convient à chacun d'entre nous de purifier son cœur. Et cette chose est une adoration immense. C'est même la plus noble des adorations. C'est une des conditions sur lesquelles repose la validité de l'ensemble de tes œuvres. Et c'est en fonction de celle-ci que la récompense de tes œuvres sera décuplée. Cette adoration, elle est appelée en arabe al-ikhlas, que l'on pourrait traduire par la sincérité. Et elle désigne le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'être sincère pour Allah, cela désigne le fait que tu accomplisses l'ensemble de tes œuvres en ayant pour objectif et pour intention le fait d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa récompense. C'est-à-dire que lorsque tu accomplis une adoration, tu ne l'accomplis ni par ostentation, ni par recherche d'un bien vil de ce bas monde, ni par recherche des compliments des gens, ni par recherche de la satisfaction de tes parents ou de la satisfaction de tes amis ou autres, mais tu n'accomplis cette œuvre que pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si telle est ton intention dans l'adoration, alors tu seras inshallah ta'ala un adorateur sincère. Et tu pourras espérer que tes adorations soient acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ » dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah, comment? En lui vouant un culte exclusif. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône, et voilà la religion de droiture. Donc on voit à travers ces versets que ce qui nous est demandé, ce qui est attendu de nous, ce n'est pas simplement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a certaines personnes qui pensent qu'il suffit d'adorer Allah, de prier, de jeûner, de donner des aumônes, et ainsi de suite. Mais en réalité, ce qui est attendu de nous, c'est quelque chose plus éminent que cela. Ce qui nous incombe, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. C'est-à-dire que tes adorations, elles doivent être accomplies sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Donc la sincérité, c'est ce qui va faire la différence entre le monothéiste, le muwahhid et le mushrik, le polythéiste. Car le polythéiste, il adore Allah, il accomplit des œuvres pour Allah, mais il accomplit en parallèle de cela des œuvres pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, cette sincérité, elle va faire la différence entre le musulman et qui ? Et l'hypocrite. Car l'hypocrite, il peut lui arriver de prier, il peut lui arriver de jeûner, il peut lui arriver d'accomplir certaines œuvres de bien en apparence. Mais au fond de lui, il n'est pas sincère. Qu'est-ce qu'il recherche par ses œuvres ? Il recherche l'agrément des gens. Il cherche à se faire accepter dans la société dans laquelle il vit, en se faisant passer pour un musulman. Mais en réalité, il ne voue pas le culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas sincère et il n'est pas véridique au fond de lui. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que les hypocrites seront au plus bas fond du feu. Donc le musulman, il se doit de faire de grands efforts afin de se distinguer des polythéistes et des hypocrites par cette adoration immense qui est la sincérité. Tu dois donc faire de grands efforts pour purifier ton cœur de toute forme de polythéisme, de toute forme d'ostentation, ainsi que de toute chose s'opposant à la sincérité, et ce afin que ton œuvre soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, « Certes, Allah n'accepte des œuvres que celles qui lui sont vouées exclusivement, que celles qui sont sincères pour lui. » Et ce hadith est rapporté par l'imam An-Nasa'i, et il a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahum Allah ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte aucune œuvre si ce n'est celle qui lui est vouée exclusivement, à lui seul, en dehors de tout autre que lui. Et on trouve dans le hadith al-Qudsi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit selon le sens, « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe autre que moi, je le délaisse lui et son association. » Je le délaisse lui et son association. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala rejette cette œuvre. Il n'accepte que ce qui lui est voué exclusivement. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, nous avertissant contre le fait de rechercher par nos œuvres autre que sa satisfaction et sa récompense. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux qui par leurs œuvres recherchent la vie présente, les compliments des gens, les biens de ce bas monde, et ainsi de suite. Nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Puis après, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne une menace sévère. Ceux-là sont ceux qui n'auront rien dans l'au-delà, autre que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils ont œuvré. C'est-à-dire que leurs œuvres seront vaines au jour de la résurrection. On voit donc à travers ces textes qu'il est impératif pour nous de veiller à ce que nos œuvres ne soient vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et être sincères envers lui dans nos adorations et à ne rechercher rien d'autre que sa récompense et sa satisfaction subhanahu wa ta'ala. Et la sincérité, elle comporte de nombreux mérites. On va en citer ici quelques-uns, incha'Allah ta'ala. Parmi les mérites de la sincérité, il y a le fait que par une intention sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, il t'est possible de transformer toute ta vie et toutes tes œuvres en actes d'adoration que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala. Même les actes ordinaires, ceux par lesquels les gens ne visent pas l'adoration de manière générale, il t'est possible par une intention sincère d'être récompensé pour cela. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Les œuvres ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué en fonction de ses intentions. » C'est-à-dire que chaque œuvre que tu accomplis, tu seras rétribué pour celle-ci en fonction de ton intention. Ainsi, si tu purifies tes intentions, tu peux faire que l'ensemble de tes œuvres soit transformé en acte d'adoration que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala. Même les actes les plus ordinaires comme le fait de manger, de boire et de dormir. Par exemple, lorsque tu manges, ou lorsque tu dors. Si tu as pour intention, dans ce repas ou dans ce sommeil, de prendre des forces afin de pouvoir mieux accomplir tes prières, alors tu es récompensé pour ce sommeil et pour ce repas. Si lorsque tu fais une sieste l'après-midi, ton intention est de pouvoir être en forme pour la prière de nuit, et de pouvoir rester debout dans cette prière en récitant ou en écoutant le Coran avec méditation, alors tu seras récompensé pour ce sommeil. De la même manière, lorsque tu travailles, beaucoup de personnes, lorsqu'ils travaillent, ils cherchent à avoir un bon salaire afin de pouvoir s'acheter ce qu'ils désirent dans ce bas monde et ainsi de suite. Et certains sont même trompés par cela et recherchent à multiplier leur richesse dans ce bas monde au point d'en oublier l'au-delà. Mais le croyant, l'adorateur sincère, il peut à travers cela être récompensé. Comment ? En recherchant par ce travail et par ce salaire qu'il cherche à obtenir, le fait de pouvoir nourrir sa famille, de pouvoir apporter à son épouse et à ses enfants les choses dont ils ont besoin afin de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Également, il peut avoir comme intention à travers ce travail le fait de pouvoir faire des aumônes, de pouvoir mettre de l'argent de côté afin de pouvoir accomplir sa hijra, ou accomplir le pèlerinage, ou accomplir la umrah, et ainsi de suite. Et si telle est son intention, il sera récompensé pour son travail. De la même manière, lorsque tu fais un loisir, lorsque tu vas te promener, ou que tu prends un peu de vacances, tu peux être récompensé pour cela. Si ton intention est sincèrement de pouvoir te ressourcer, afin de pouvoir à ton retour mieux te consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mieux te consacrer à l'apprentissage de la science, à l'apprentissage du Coran, et ainsi de suite, alors tu seras récompensé durant ce loisir, cette promenade ou ces vacances. De la même manière, lorsque la personne fait chez elle le nettoyage ou le ménage, ceci est un acte ordinaire, pour lequel grand nombre de personnes ne sont ni récompensées ni châtiées. Toutefois, si la personne, lorsqu'elle accomplit cela, elle a l'intention que sa maison soit propre et agréable, et d'entretenir un climat approprié pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle sera en cela récompensée. De la même manière, lorsque tu fais des cadeaux à tes enfants ou à tes proches, et que tu vises par cela le fait de les encourager à l'apprentissage de la science, ou alors de les appeler à l'islam, de les appeler à la droiture, et ainsi de suite, tu as en cela des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vois qu'avec la sincérité, avec une intention sincère, ta vie tout entière peut se transformer en adoration et en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, même les actes les plus ordinaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, « Tu ne fais aucune dépense par laquelle tu recherches le visage d'Allah sans être récompensé pour celle-ci, même la bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ton épouse. » Quelle est la condition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émise dans ce hadith? Par laquelle tu recherches le visage d'Allah, la sincérité. Donc dans chacune de tes dépenses, tu peux obtenir une récompense immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu recherches par celle-ci le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les mérites de la sincérité, qui est un mérite immense également, il y a le fait que tu peux être récompensé pour des œuvres que tu n'as même pas accomplies, mais ce à condition d'être sincère et véridique. En effet, Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapportent d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a inscrit les bonnes actions et les mauvaises. Puis il a expliqué cela. Quiconque décide à la volonté d'accomplir une bonne action, mais ne l'a pas faite, Allah la lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne action complète. Il ne l'a pas faite pourtant, mais il avait la volonté sincère d'accomplir cette bonne action. Puis il l'a délaissée. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit une bonne action complète. Quiconque décide d'accomplir une bonne action, et puis l'accomplit effectivement, Allah les lui inscrit de 10 à 700 fois sa valeur, et même plus encore. C'est-à-dire que cette action, elle est décuplée de 10 à 700 fois, ou plus encore, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque décide de faire une mauvaise action, et il ne la fait pas, il la délaisse sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah la lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne action. Et s'il a la volonté de la faire et la fait, commet cette mauvaise action, alors Allah la lui inscrit comme étant une seule mauvaise action. Donc on voit à travers ce hadith que l'homme peut obtenir des récompenses sans même avoir accompli une quelconque action, simplement de par son intention. Si tu as la volonté de faire une bonne action, puis qu'après tu abandonnes cette bonne action, cette bonne action ne fait pas partie de tes obligations, mais que c'est une œuvre recommandée, une œuvre de bien, alors Allah subhanahu wa ta'ala t'inscrit auprès de lui une bonne action complète en récompense de ton intention. Et ça, il est important de savoir que c'est lorsque tu délaisses cette action sans excuse. Simplement, tu avais la ferme volonté de l'accomplir, mais finalement tu l'as délaissée. Alors Allah subhanahu wa ta'ala t'inscrit quand même une bonne action complète pour ta bonne intention. Mais si tu as l'habitude de faire cette bonne action, mais que tu ne l'as pas faite à cause d'un empêchement, alors tu seras récompensé pleinement. Tu auras la récompense de ta bonne intention, et tu auras la récompense de cette action que tu as l'habitude de faire comme si tu l'avais accomplie. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui est malade ou en voyage, Allah lui inscrit la récompense des œuvres qu'il faisait lorsqu'il était en bonne santé et résident. C'est-à-dire que celui dont la maladie ou le voyage empêche d'accomplir certaines bonnes actions qu'il avait l'habitude de faire. Par exemple, le fait de jeûner le lundi et le jeudi, ou le fait d'accomplir certaines prières surrogatoires, ou alors le fait d'accomplir ses prières en groupe à la mosquée, et ainsi de suite. Il en est empêché à cause de la maladie ou du voyage. Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit la récompense complète de ses œuvres, comme s'il les avait accomplies. Et médite dans ce hadith sur la bienfaisance et la générosité de ton Seigneur envers toi. Si tu décides de commettre une mauvaise action, Tu as l'intention de commettre un péché, puis tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu renonces à ce péché en recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala t'inscrit une bonne action complète. Tu es donc récompensé lorsque tu souhaites faire le bien, même si tu ne le fais pas, si ton intention est sincère. Et tu es récompensé également si tu as voulu faire un péché puis que tu l'as délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention ici à ne pas confondre avec celui qui l'abandonne parce qu'il n'a pas été capable de le commettre. Celui-ci, il lui sera inscrit une mauvaise action à cause de sa mauvaise intention. Car il ne l'a délaissé que par incapacité. Il faut donc bien faire attention à distinguer entre ces différentes situations. Quoi qu'il en soit, on voit à travers ce hadith l'importance de toujours avoir de bonnes intentions, de toujours vouloir faire le bien, afin d'obtenir la récompense des bonnes œuvres. À titre d'exemple, certains parmi les gens de science ont mentionné l'exemple du pèlerinage. On sait que le pèlerinage est une obligation pour celui qui en a les capacités. Et nombre de personnes parmi les musulmans n'ont pas les capacités d'accomplir le pèlerinage. Toutefois, chaque année, tu dois avoir l'intention d'accomplir le pèlerinage. Pourquoi? Afin d'être récompensé pour cette intention. Tu dois avoir l'intention véridique d'accomplir le pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, si tu ne le fais pas, tu es excusé, mais tu seras récompensé pour ton intention. Et c'est à ce sujet que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a donné une très belle recommandation à son fils. Un jour, son fils est venu lui demander une recommandation. Il lui a dit « Oh mon père, adresse-moi une recommandation ». Alors l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala lui a dit « Cette parole concise mais lourde de sens, oh mon fils, aie l'intention de faire le bien, car tu ne cesseras d'être sur le bien tant que tu as l'intention de le faire. » Allahu Akbar. Aie l'intention de faire le bien, car tu ne cesseras d'être sur le bien tant que tu as l'intention de le faire. Et comme on l'a vu dans le hadith, celui qui a l'intention de faire le bien et qui après ne le fait pas, alors il est tout de même récompensé pour son intention. Et ceci fait partie des mérites immenses de la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi ces mérites, il y a le fait que la sincérité, elle va te préserver des wasawis, des suggestions du diable. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ » Par ta puissance, dit le diable, je les séduirai assurément tous. Sauf qui ? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sauf tes serviteurs élus parmi eux, tes serviteurs sincères. Ceux-là, ils sont préservés de la tentation du diable. Et ceci fait partie des mérites immenses de la sincérité pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Également parmi les mérites de la sincérité, il y a le fait que celle-ci éloigne des péchés et te préserve de commettre des péchés. Et médite à ce sujet sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de Yusuf alayhi salam. Lui qui a été pris dans un piège et qui a été poussé vers le péché, mais qui en a été préservé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à son sujet كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Pourquoi ? Il était certes un de nos serviteurs élus, un de nos serviteurs sincères. Donc sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala a été une cause afin de le préserver du mal et de la turpitude. Et ceci fait partie des mérites immenses de la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les mérites de la sincérité, il y a le fait qu'elle est la cause du pardon des péchés. En effet, on trouve dans le hadith al-Qudsi, le hadith divin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens rapproché, « Ô enfant d'Adam, si tu me rencontres avec l'équivalent de la terre en péché, » L'équivalent de la terre en péché, vous vous rendez compte? C'est une quantité immense de péché. « Si tu me rencontres avec l'équivalent de la terre en péché, mais que tu me rencontres en ne m'ayant donné aucun associé, c'est-à-dire que tu as été sincère envers moi, que tu m'as voué exclusivement le culte, alors je t'accorderai l'équivalent au pardon. » Allahu Akbar. Celui qui a été sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne lui a donné aucun associé, qui vient au jour de la résurrection en ayant voué son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il accomplit d'innombrables péchés, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera son pardon s'il le veut. On voit donc ici un des mérites immenses de la sincérité et du fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette sincérité, pour la concrétisation de celle-ci, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble de ses prophètes alayhimus salatu wassalam et a révélé l'ensemble de ses livres. afin que le culte lui soit voué à lui seul exclusivement. Tout acte et toute parole doivent donc être purifiés de tout ce qui pourrait les corrompre, de tout ce qui pourrait les invalider, ou de tout ce qui pourrait en diminuer la récompense, à l'exemple de l'ostentation, de l'amour des éloges et des compliments des gens, et de tout ce qui y ressemble parmi ceux qui s'opposent à cette sincérité. Et les preuves du livre et de la sunna, elles sont très nombreuses à démontrer l'obligation pour le serviteur d'être sincère dans ses paroles et dans ses actes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte des paroles et des actes que ce qui lui est voué exclusivement. C'est pour cela que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils faisaient des efforts immenses afin de corriger leurs intentions. Et ils savaient que la sincérité, c'est la chose la plus importante et la plus difficile pour l'âme. Ils ne se souciaient donc pas seulement de l'œuvre en elle-même, car l'accomplissement de l'œuvre, c'était quelque chose de simple pour eux. C'est-à-dire qu'il n'était pas difficile pour eux de prier la nuit, de jeûner le jour, de faire des aumônes. Ce n'était pas cela leur préoccupation. Mais leur préoccupation, c'était quoi? C'était que leurs œuvres soient saines, sincères et prémunies de toute chose pouvant annuler leur récompense ou la diminuer. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, « L'affaire de l'intention est une affaire difficile. » C'est-à-dire que ce n'est pas facile d'être sincère. Mais cela demande de toi que tu luttes contre ton âme afin de vouer tes œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Sofiane al-Thawri rahimahullah ta'ala a dit « Je n'ai pas soigné une chose plus difficile pour moi que mon intention, car elle se retourne sans cesse contre moi. » L'imam Sofiane al-Thawri rahimahullah ta'ala, un imam parmi les imams des salafs, il nous dit qu'il n'a pas soigné une chose plus difficile que son intention. Ceci nous montre que l'intention et la sincérité, ce n'est pas une chose facile à atteindre, mais cela demande de grands efforts. D'autres ont dit, purifier l'intention de sa corruption est plus difficile pour ceux qui œuvrent que de longs efforts. Comme on a dit, purifier l'intention, c'est ça la chose la plus difficile. Quant au fait de rester longtemps debout en prière, de jeûner de longues journées, de faire de grands aumônes, certes cela demande des efforts, mais ce sont des choses qui sont très accessibles pour le serviteur. Mais le plus dur est de purifier ton intention dans ses œuvres. Et il n'y a rien de plus difficile pour l'âme que le fait d'être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque tu accomplis tes œuvres sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors ton âme ne retire aucun profit mondain de celle-ci. En effet, l'âme, il se peut qu'elle soit attirée par les compliments. Il se peut qu'elle soit attirée par certains biens vils de ce bas monde. Donc lorsque tu voues tes œuvres sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, l'âme, elle ne tire aucun profit de cette œuvre. Et c'est pour cela qu'il est difficile d'être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sincérité donc, c'est la chose la plus précieuse que tu dois rechercher ici-bas. Tu dois faire de grands efforts afin de purifier ton cœur de tout ce qui s'oppose à cette sincérité, à l'exemple de l'ostentation et de la recherche des compliments. Et il est obligatoire pour chacun d'entre nous d'accorder une grande importance à cela, de corriger nos intentions et de délivrer nos cœurs de tout vice et de tout défaut s'opposant à la sincérité. Et ce, car comme on l'a dit, les œuvres sont rétribuées en fonction de leurs intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Donc la sincérité, ce n'est pas une chose facile. Mais lors du jeûne, en réalité, tu vas t'entraîner à être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le jeûne, c'est une adoration qui, lorsque tu l'accomplis, tu ne peux l'avouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'au départ, la personne soit poussée à jeûner pour ressembler à ses proches, pour faire comme ses amis, pour faire plaisir à ses parents ou autres. Mais une fois que tu jeûnes, que tu te livres à cette adoration immense, celle-ci tu ne l'avoues qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, lorsque la personne se retrouve seule, qu'est-ce qui l'empêche de manger et de boire si ce n'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir de sa récompense et la crainte de son châtiment? Donc cette chose qui t'empêche de boire et de manger lorsque tu te retrouves seul enfermé dans une pièce et que nul ne t'observe si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette même crainte et cette même chose qui doit te pousser à vouer l'ensemble de tes œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser l'ensemble des péchés afin de rechercher la satisfaction d'Allah ainsi que sa récompense. Et il est important de savoir que dans tes œuvres d'obéissance, tes œuvres d'adoration que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as besoin de patience afin de pouvoir les préserver. Et c'est à ce sujet que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, selon le sens de sa parole, de manière résumée, le serviteur a besoin de patience dans trois situations. Premièrement, avant d'accomplir l'adoration. Et ce, afin de corriger son intention est d'être sincère dans celle-ci et de s'éloigner de tout ce qui pourrait le pousser à l'ostentation. Le deuxième moment et la deuxième situation, c'est au moment de l'accomplissement de l'œuvre. Tu dois patienter face à tout ce qui pourrait te mener au manquement ou à la négligence. Et tu persistes dans la patience en te remémorant ton intention et en ayant un cœur présent face à Allah subhanahu wa ta'ala, à qui tu voues cette œuvre et à qui tu voues cette adoration. Et le plus important donc, ce n'est pas d'accomplir cette adoration, mais le plus important pour toi, c'est de ne pas oublier à qui tu voues cette adoration. Et si ton cœur est présent de cette manière lors de ton adoration, alors tu auras accompli l'adoration des adorateurs sincères, ceux qui vouent leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au moment de l'accomplissement de l'adoration, tu as besoin de patience afin de l'accomplir de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ceci nécessite de la patience afin de te remémorer sans cesse que cet acte n'est voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième moment où tu as besoin de patience, ou la troisième situation, c'est après avoir terminé l'œuvre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'accomplir cette œuvre et qu'une fois qu'elle est terminée, penser que tu as tout gagné. Mais tu as besoin de patience encore après l'avoir terminée. Et ceci se traduit de plusieurs manières. La première est que tu patientes face au fait de commettre ce qui pourrait annuler ton œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes. Par quoi? Par un rappel ou un tort. Comme celui qui dépense ses biens par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Donc ce qui est important, ce n'est pas seulement d'avoir accompli l'obéissance, mais tu dois la préserver par la suite de tout ce qui pourrait l'annuler. La deuxième chose par laquelle se traduit la patience dont tu as besoin après avoir terminé l'œuvre, c'est de patienter face au fait d'être pris de vanité ou d'être pris d'orgueil du fait d'avoir accompli cette adoration. En effet, il se peut qu'une personne, elle accomplisse la prière de nuit, ou elle clôture la lecture du Coran durant ce mois, et qu'elle soit prise d'orgueil face à cela, ou qu'elle se sente meilleure ou supérieure à celui qui a accompli des œuvres moindres que les siennes. Et ceci peut être plus nuisible pour toi que beaucoup de péchés apparents. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité l'accomplissement de ces adorations, tu dois plutôt le remercier, faire preuve de reconnaissance envers lui, et être conscient que ceci n'est qu'une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. Et la troisième chose par laquelle se traduit cette patience que tu dois avoir après l'accomplissement de l'œuvre, c'est le fait de ne pas faire passer un acte que tu as accompli secrètement à un acte public. C'est-à-dire qu'il se peut que le serviteur accomplisse une œuvre secrètement entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il accomplit une aumône en secret. Il accomplit une prière secrètement. Il lit le Coran secrètement. Il fait certaines œuvres à l'abri du regard des gens. Et celle-ci est alors inscrite dans le registre des œuvres secrètes. Il doit donc patienter afin de préserver cette œuvre secrète. Car si tu la divulgues par la suite, alors celle-ci passera dans le registre des œuvres publiques. Donc, tu ne dois pas penser que l'épreuve de la patience, elle est terminée une fois que tu as terminé ton œuvre. Mais elle continue après cela. Et tu dois faire preuve de patience afin de conserver ton œuvre et de la garder voué exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci nous montre l'importance de la sincérité. Cette sincérité sans laquelle aucune de tes œuvres ne peut être acceptée. Toutefois, pour terminer, j'attire votre attention sur le fait que bien que la sincérité soit une chose très importante et qu'il est impératif pour le musulman d'être sincère dans ses œuvres et de les vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, même si tu es sincère, ton œuvre ne peut être acceptée qu'à condition que tu remplisses une deuxième chose qui est le fait que ton œuvre soit conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, car toute œuvre qui s'oppose à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a légiféré, même si elle est sincère pour Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une œuvre qui est vaine et rejetée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith rapporté par Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, dans le recueil authentique de l'imam Muslim, rahimahullah, quiconque accomplit une œuvre que je n'ai pas ordonnée, son œuvre sera rejetée. Même s'il est sincère pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas d'être sincère, mais il faut que ton œuvre soit conforme à ce qu'a légiféré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte à ce sujet que Saïd ibn al-Musayyab, rahimahullah ta'ala, a vu un homme multiplier les prières après le lever de l'aube, c'est-à-dire à l'heure du Fajr, avant d'accomplir la prière obligatoire. La seule chose qui est légiférée, c'est d'accomplir deux unités de prières qui sont fortement recommandées. Rak'atay al-Fajr, les deux unités de prières recommandées qui sont liées au Fajr. Et il n'est pas légiféré d'accomplir d'autres prières en dehors de cela. Donc il a vu cet homme qui multipliait les prières. Il lui a interdit. Alors l'homme s'est exclamé et lui a dit « Oh Abba Muhammad, Allah va-t-il me châtier pour la prière ?» Il prie. Certainement, il recherchait par cela la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il s'étonne d'être interdit de prier et lui dit « Allah va-t-il me châtier pour ses prières ?» Alors Saïd ibn al-Musayyab rahimahullah ta'ala lui répondit « Non, mais il va te châtier pour ton opposition à la sunnah. » Donc ce récit il nous démontre explicitement qu'il ne suffit pas pour le serviteur d'être sincère dans ses œuvres, bien que la sincérité soit d'une importance primordiale. Mais il est impératif qu'en plus de la sincérité, tu accomplisses cette œuvre de la manière que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a légiféré pour nous. Ibn al-Arabi al-Maliki, rahimahullah ta'ala, rapporte qu'un homme est venu à l'imam Malik, rahimahullah, et lui a dit « Oh Abba Abdillah, à partir de quel endroit dois-je me mettre en état de sacralisation ?» Il lui dit « À partir de Dil Hulayfa, qui est le miqat des gens de Médine, là où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en état de sacralisation. » L'homme lui dit alors « Je vais me mettre en état de sacralisation à partir de la mosquée. » Alors l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui dit « Ne le fais pas. « Je crains sinon qu'une épreuve t'atteigne. » L'homme lui dit « Et quelle épreuve y a-t-il en cela ?»« Ce ne sont que quelques kilomètres que j'ajoute, c'est-à-dire je ne vais faire que me mettre en état de sacralisation quelques kilomètres avant le miqat. » Alors l'imam Malik rahimahullah ta'ala lui répondit « Et y a-t-il une épreuve plus grave que le fait que tu penses accomplir un bien qu'aurait négligé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?» J'ai certes entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Donc ces récits nous prouvent qu'il est indispensable pour que nos œuvres soient acceptées, qu'en plus d'être sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala, elles soient conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on se retrouve demain, inshallah, pour la suite de cette série de cours. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alameen. وجزاكم الله خيرا